En ce moment, se tient un premier exercice sur le terrain, ce qu'on appelle le Arctic Guardian. Pour nous en parler, Frédéric Lasserre, il est directeur du Centre québécois d'études géopolitiques à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Lasserre.
Bonjour.
Monsieur Lasserre, d'abord, parlons de cette croissance de l'activité humaine dans l'Arctique. Et ça, c'est un phénomène qui vraiment s'amplifie depuis quand?
Depuis, effectivement, que les impacts des changements climatiques sont plus manifestes et aussi depuis que les cours des matières premières sont plus élevés. Je m'explique. Ce que l'on observe, c'est qu'à la fois, il y a plus d'activités de recherche pour les sites des matières premières, il y a plus d'activités d'extraction, ce qui est en partie facilité, même si ce n'est pas la cause première, ce qui est facilité par la fonte de la banquise. Et puis, il y a aussi donc la plus grande facilité pour les navires pour se déplacer dans la région arctique, ce qui donc facilite aussi les activités économiques.
Oui, et fonte de la banquise qui fond plus rapidement et qui sera fait plus tard.
Oui, pour le moment, il n'y a personne qui envisage que la banquise disparaisse complètement. On sait très bien qu'elle fond de plus en plus en été. Il y a plusieurs scénarios climatiques qui prédisent qu'il y aura un moment au 21e siècle où la banquise va disparaître complètement au cours de l'été. Mais on ne sait pas combien de temps. Et ce qui est certain, c'est qu'elle va toujours se reformer en hiver. En hiver, ce sera toujours l'hiver arctique. Il va toujours faire moins 40, moins 50. Ce sera toujours la nuit polaire. Donc la banquise va toujours se reformer.
Parlez-nous du changement de trafic qu'on voit. Vous y avez fait référence un peu, mais on voit aussi des gens qu'on ne voyait pas avant, comme des croisières.
Oui, alors effectivement, avec le retrait progressif de la banquise, ce que l'on observe, c'est à la fois une augmentation du trafic. Il y a de plus en plus de navires qui vont dans l'Arctique, pas nécessairement qui transitent par l'Arctique, mais en tout cas qui vont dans l'Arctique. Et on observe aussi une diversification du trafic. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement des brise-glaces et quelques navires qui viennent desservir les communautés locales et les activités d'exploitation minière ou pétrolière, on observe de plus en plus de navires, comme les navires de croisière, qui ne venaient que très très rarement jusqu'à présent, des navires de particuliers aussi, des yachts de plaisance qui viennent explorer les régions arctiques. On observe aussi une diversification des types de marchandises que les cargos transportent dans la région. Donc un trafic de plus en plus diversifié dans la région arctique.
Vous vous êtes rendu vous-même à plusieurs reprises dans cette région. Parlez-nous un peu de ce que vous avez pu y constater. Parce qu'on parle vraiment de changement climatique, mais qui affecte beaucoup de pays qui se retrouvent donc dans ce forum du Conseil de l'Arctique.
Alors, c'est certain que la réalité des impacts des changements climatiques, elle est très perceptible. On a évoqué la fonte de la banquise, qui est tout à fait réelle. On voit que la banquise fond de plus en plus tôt au printemps, qu'elle se reforme de plus en plus tard à l'automne, qu'elle est de moins en moins épaisse, la glace pluriannuelle, donc qui a passé déjà plusieurs hivers, plusieurs étés, est de plus en plus rare. Mais ce n'est pas tout. Ce que l'on observe aussi, c'est un changement dans les schémas de météo, ce qui rend la prédiction météo, par exemple, de plus en plus difficile à faire pour les communautés locales. Ça provoque des accidents dans les communautés autochtones, chez les Inuits, par exemple, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à lire le temps qu'il va faire dans les prochains jours. Et puis, ça a aussi des conséquences sur Terre, qu'on néglige un peu souvent. La faune, la flore, on commence à changer. Les espèces qui viennent du sud migrent progressivement vers le nord et le pergélisol fond aussi. Donc, ça provoque une multitude d'impacts. Notamment, ça libère de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, toute la matière végétale qui était prisonnière du sol gelé en permanence recommence à se décomposer et ça libère beaucoup de gaz à effet de serre. Et toutes les infrastructures qui reposaient sur ce sol gelé en permanence ont tendance à être considérablement fragilisées. Donc les bâtiments bougent, les infrastructures, les routes, les voies ferrées ne sont plus stables. Et ça complique beaucoup le transport par voie terrestre.
Ce forum du Conseil de l'Arctique existe depuis 2015. Est-ce que vous voyez déjà des progrès?
Alors, il y a deux institutions qui existent dans l'Arctique. Il y a effectivement le Conseil de l'Arctique qui existe depuis 1996, qui est une initiative canadienne d'ailleurs, et qui est le forum diplomatique officiel qui fonctionne selon le mode du consensus, donc qui vise à permettre aux délégations des différents États d'aborder différents sujets et d'essayer de trouver des consensus. Et puis, il y a l'Arctic Circle, le cercle arctique, qui est encore moins formel, qui est à l'initiative de l'Islande, qui existe donc depuis 2015, effectivement, qui n'est pas vraiment uniquement diplomatique, qui vise plutôt à permettre à des délégations de gouvernement, mais aussi de scientifiques, d'industriels, de se rencontrer. Donc, il s'agit d'essayer de favoriser le dialogue entre la société civile, les chercheurs, les gouvernements. C'est plus une plateforme de discussion qu'une instance de gouvernance de la région arctique. Mais ça connaît un certain succès, notamment précisément parce que ça offre une certaine vitrine tant aux industriels qu'aux chercheurs qu'aux gouvernements pour présenter leurs vues et discuter avec leurs vis-à-vis. Alors, dans le cadre de la coopération qui se met en place alors, entre les États riverains et les États arctiques, il y a des initiatives diplomatiques comme le Conseil de l'Arctique. Il y a aussi des initiatives très opérationnelles, par exemple la concertation entre les différents organismes des gardes côtières et qui permet de nombreux exercices de se tenir, comme l'Arctic Guardian, où les États précisément délèguent à la fois des officiers, éventuellement du matériel, pour que on puisse se faire part des bonnes pratiques que l'on a enregistrées dans chacun des États, que l'on puisse aussi se faire part des soucis, des préoccupations des différents États et surtout que l'on puisse coordonner les façons de faire. Au sein du Conseil de l'Arctique, on a négocié il y a quelques années un traité qui prévoit quelles sont les zones de responsabilité des différents États. Donc, il faut que l'on puisse se coordonner pour appliquer efficacement ce traité. Et puis aussi, il faut que, compte tenu de la complexité croissante des tâches de la garde côtière, il y a de moins en moins de banquises, donc il y a de plus en plus de gens, de navires qui viennent dans l'Arctique. Il faut être en mesure de contrôler, de surveiller ces espaces maritimes et éventuellement de porter secours à des navires ou des avions qui auraient des accidents pour aller sauver les personnes et essayer de limiter les dégâts d'éventuelles catastrophes environnementales.
Et c'est
Et
un
tout ça.
grand territoire à couvrir, là.
Et c'est ça, c'est un territoire qui est tout à fait immense avec des moyens qui sont relativement limités. Donc, pour atteindre une efficacité meilleure, en tout cas plus optimisée, les États conviennent que on peut le faire notamment en se coordonnant. Donc, on organise fréquemment des rencontres pour essayer de voir comment on peut mieux partager l'information, comment on peut mieux se coordonner lorsqu'on veut monter des opérations conjointes pour prêter assistance.
Je m'entretenais avec Frédéric Lasserre. Il est directeur du Centre québécois d'études géopolitiques à l'Université Laval. Merci beaucoup, Monsieur Lasserre.
Merci à vous.